Son des Feinu, med en halosolu puhu, prosoligon esti ta deun, ta telos ochronos apai deun.
Il faut abandonner Poligny sans larmes, sans tombe, pâture de choix pour les oiseaux carnassiers, que la privation de tombeau lui soit châtiment. C'est ainsi que le roi Créon refuse absolument les funérailles de Poligny dans l'Antigone de Sophocle. Le texte est cité par la sociologue Riva Castariano dans un entretien au journal Libération daté de ce jour. Elle publie en mars prochain un livre sur le sort réservé au corps des terroristes et dans cet article analyse celui réservé aux dépouilles de Ben Laden, celui des auteurs des attentats de Londres ou de Madrid et bien sûr aux dépouilles des récents coupables des attentats parisiens. La semaine dernière, le philosophe Thierry Hoquet et la sociologue Shala Shafik proposaient de décaler la lecture des récents faits violents en mettant au centre la question de la hiérarchie des sexes et celle de la représentation d'une masculinité dite traditionnelle. Non pas pour livrer un filtre de lecture unilatérale, mais parce que ce déplacement éclairait nouvellement, notamment, des enjeux démocratiques et éthiques. Tout ceci montre qu'avec un peu de recul, affleurent des propositions et des analyses bien plus intéressante que toutes celles entendues à chaud. Il est 16h, passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, le bénéfice du temps. C'est l'heure des nouvelles vagues. Tous les jours, un peu avant 17h, les nouvelles vagues passent au singulier. Nous demandons à quelqu'un de raconter 5 moments marqués par une émotion forte. C'est la chef d'orchestre Zaya Ziwani qui se prête à l'exercice jusqu'à vendredi. Elle dirige depuis plusieurs années l'ensemble Divertimento, que vous pourrez entendre le 10 février prochain à Stein, en Seine-Saint-Denis. Et elle évoque aujourd'hui la création du spectacle « Il était une fois Mozart ». C'était en 2006 et c'était pour elle la preuve que la musique classique pouvait se jouer et se faire entendre avec exigence et générosité partout et pour chacun. Passeport collectif pour Mozart vers 16h45. J'arrive, j'avais perdu ma feuille. Hier, la sociologue et politologue Noëlle Burgy était notre invitée. Le désastre économique est pour elle et quelques chercheurs grecs réunis dans l'ouvrage La Grande Régression, une occasion pour les autorités européennes de tester grandeur nature, la réduction à minima des politiques sociales, notamment en matière de santé et de droit du travail. C'est aussi, selon la chercheuse, une façon de raviver des représentations nord-sud et centre-périphérie, nourries par toutes sortes de préjugés dans les relations européennes. On la réécoute.
Pour comprendre ça, il faut peut-être partir de quelque chose dont vous vous souvenez peut-être, qui est cette première page du journal populaire allemand Bild Zeitung, qui disait, je vais le dire en allemand, « Verkauft doch eure Inseln », et c'est « Vendez donc vos îles, vous autres Grecs ruinés, et vendez l'acropole avec ». Et le Daily Mail, en anglais, avait dit « We give you cash, you give us Corfu ». Donc, on vous donne de l'argent et vous nous donnez Corfu.
Refrain is a little strange. stay. Not to play these games. Nothing is for sure. I'm glad I let you go. All things must change and remain.
C'est David et Jacques Bovies qui réalisent l'émission cette semaine et pour commencer, il a la très bonne idée de vous faire entendre Pains, ce titre du groupe Silk Roads. Il a un jeu de mots à propos de ce groupe, mais je le laisserai faire. Vous pouvez lui écrire. Le festival Longueur d'onde a débuté à Brest et comme chaque année, vous y découvrirez des tas d'initiatives et de créations en lien avec le son et la radio. Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous pour un enregistrement en public des Nouvelles Vagues au Petit Théâtre du Quartz à 16h30. Cet enregistrement sera suivi d'une rencontre à 17h30. Et si vous ne bougez pas, juste le temps de vous rafraîchir, Thomas Baumgartner prend le relais et poursuit à 19h en enregistrant son atelier du son au même endroit. C'est donc au plaisir de vous y voir chacun, chacune, toutes les infos et le reste des programmes sur www.longueur-onde.fr. Il est 16h08, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des Nouvelles Vagues et c'est le troisième moment de cette semaine grecque. Lundi, dans le roman de Charlie Delwart, une jeune adolescente faisait l'expérience d'une citoyenneté nouvelle en taguant sur les murs des slogans tantôt très intimes, tantôt très politiques. Hier, la sociologue et politologue Noëlle Burgy proposait une lecture de la crise grecque très centrée sur la circulation des représentations et la restauration d'une hiérarchie nord-sud, ainsi que l'usage de la dette comme incommensurable culpabilité dans les relations européennes. Aujourd'hui, mercredi, c'est toujours au prisme de ce que l'on appelle les nouvelles technologies que nous abordons notre thème. Et c'est un grand écart temporel qui est à l'œuvre. Revoir la statuaire, l'architecture et l'art de la Grèce antique grâce notamment à la modélisation 3D et surtout chahuter le mythe d'une Grèce toute blanche pour rétablir la richesse porteuse d'altérité de la polychromie d'antan. La science documente de mieux en mieux et de plus en plus les frontons colorés des temples, des frises et des statues ornées de vives couleurs. Les nouvelles technologies offrent, elles, des possibilités quasi infinies aux archéologues et autres chercheurs pour approfondir ce travail autour de ce patrimoine. Philippe Joquet, vous êtes en plein dedans. Vous êtes professeur d'histoire et de civilisation grecque. Vous êtes détaché cette année dans une chaire d'excellence à l'université Pierre et Marie Curie. On aura l'occasion de développer la quantité d'activités qui sont les vôtres. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
It's a fight of the individual against the circumstances. The eternal problem of the old Greeks.
Oh, please.
Ici, c'est le problème éternel des anciens Grecs.
I don't know if you're able to understand it, Jerry. I certainly hope you can. It's a fight against the gods. The fight of Prometheus and Ulysses.
C'est le combat contre les dieux, le combat d'Ulysse.
Gods. I like them very much.
Monsieur Procoche aime les dieux.
I know exactly how they feel.
Il les comprend très bien.
Exactly. Jerry, don't forget, the gods have not created man. Man has created gods.
Tiens, Homer.
Ce n'est pas les dieux qui ont créé les hommes, mais les hommes qui ont créé les dieux.
Philippe Jocquet, on commence par un extrait du Mépris de Godard et ces images projetées dans une salle de cinéma. Fritz Lang les regarde à côté de Michel Piccoli. C'est un film qui veut porter à l'écran le voyage d'Ulysse. Et les statues qu'on voit à l'image ont les yeux et la bouche colorées. En quoi est-ce que c'est une métaphore presque de la totalité du travail que vous faites en tant que chercheur ?
Écoutez, moi j'ai été très frappé effectivement par le Mépris. Dans la mesure où, contrairement à toute cette blancheur ambiante, on trouve chez Godard, justement, une recolorisation de cette graisse blanche qui va à l'encontre, à rebours de tout ce qui se dit encore à ce moment-là, et de manière très, très moderne, hein, dans l'esprit. Quelques années plus tard, les moulages blancs des académies seront badigeonnés, tagués. Lui, au contraire, redonne ses vraies couleurs, en quelque sorte, à la statue grecque, avec cette belle phrase mise dans la bouche de Fritz Lang, à savoir que ce sont les dieux, les hommes qui ont inventé les dieux et non pas les dieux, les hommes. Et effectivement, la clé, elle est là, hein, dans la mesure où ces dieux sont à l'image des hommes, il faut aussi leur rendre leur couleur. Donc il y a dans le propos de Godard des éléments passionnants. Il faudrait un jour lui demander d'ailleurs comment tout cela s'est mis en place chez lui. Mais on a, loin d'un barbouillage, la première recolorisation 3D matérielle en fait d'une série de sculptures qui vont de l'époque archaïque à l'époque hellénistique, enfin du 7e siècle au 1er siècle avant.
Ce qui est très très beau à l'image, c'est que pour peut-être donner des souvenirs à ceux qui l'ont vu il y a longtemps ou à ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ces yeux qui sont dessinés en bleu de manière très graphique et la bouche recolorisée parfois en bleu ou parfois en rouge. Vous parlez d'un mythe grec tout blanc ou d'une graisse toute blanche qui se fissure à la faveur de ces images-là dans le film de Godard. Comment la science fait justement des fissures dans ce mythe de la graisse toute blanche? Et depuis quand?
Alors depuis quand? En fait, nous savons depuis que le Parthénon a été dépecé au début du XIXe siècle, nous savions que la Grèce était colorée, que ses temples étaient colorés, que ses sculptures étaient peintes et dorées. Mais pendant plus d'un siècle, il y a une très forte réticence pour le reconnaître. Et il a fallu un concours de circonstances, il a fallu mettre en œuvre un certain nombre de procédés physico-chimiques pour arriver, avec une évidence archéologique matérielle nouvelle, à le rendre justement manifeste. Mais quand bien même vous le rendez manifeste, il y a comme une sorte de résilience encore aujourd'hui à le reconnaître. Et en dépit de cette évidence très forte, physico-chimique, dans laquelle on découvre tous les pigments, les colorants, les sous-couches, les traitements de surface ultimes, eh bien, vous avez toujours cette réticence qui fait que, dans le meilleur des cas, on dit que cette sculpture grecque polychrome est kitsch. Or, elle n'était pas kitsch.
Donc, voilà. Pour être concret, c'est ces images que l'on a de marbre blanc, de ce blanc immaculé partout, de l'architecture jusqu'au corps des demi-dieux ou des dieux qui sont représentés, ne sont pas blancs dans la Grèce antique?
Non, je dis souvent que le blanc, pour les Grecs, est la couleur de l'inachevé. Et au contraire, ces marbres blancs avaient vocation à être dorés, très souvent, parfois dorés et peints, parfois exclusivement peints. En fait, toute la gamme des couleurs, toute la gamme des options possibles de ces traitements a été explorée par les Grecs depuis très tôt, en fait, depuis le début de cette relation très particulière que les Grecs ont entretenue avec leur dieu, qui passait aussi par la couleur, l'entretien des couleurs et la dorure.
Parce que si vous évoquez des procédés chimiques qui laissent à voir de manière frappante et non négociable ce non-blanc ou cette polychromie, il y a des textes très anciens qui font référence à cette couleur, à la présence de la couleur, à la présence de l'or, à la présence de statues qui sont oints d'huile colorée.
Tout à fait.
Mais pour autant, finalement, on ne pouvait pas faire correspondre ces textes anciens avec ce que l'on avait devant nos yeux en tant qu'objet.
Vous avez tout à fait raison, ça fait partie des paradoxes. C'est-à-dire que nous avions toute l'évidence textuelle. Nous savions comment les statues étaient peintes, quelles étaient peintes, comment les marbres des temples étaient peints. Mais là encore, ça n'a pas suffi. Et la mise en correspondance avec l'évidence archéologique, physique, physico-chimique et ces textes, eh bien, est encore en cours finalement de réalisation. Et on se rend compte, effectivement, on relit ces textes à la lumière des résultats, mais on relit les résultats des données les plus dures, des sciences dures, si vous voulez, à la lumière de ces textes aussi. Donc il y a un va-et-vient très intéressant entre les deux actuellement, qui fait l'intérêt de cette recherche encore aujourd'hui.
Mais quel était le statut de ces textes alors? Parce que c'était très mystérieux d'entendre parler de peinture et de couleurs quand on avait devant les yeux des statues blanches.
Alors, bien sûr. Alors, la blancheur de ces statues, elle était réelle dans la mesure où l'évidence matérielle de la couleur s'était le plus souvent estompée, compte tenu du fait que cette matérialité de la couleur était extrêmement fragile et que les Grecs et les Romains, d'ailleurs, l'entretenaient régulièrement pour justement entretenir aussi cette relation pieuse aux divinités. Et à partir du moment où on a perdu cette évidence matérielle, il est vrai que les textes se sont tus en quelque sorte. Hein. On peut dire cela comme ça.
L'idée de l'ancienneté imprime aux monuments comme aux hommes un caractère de respect et de vénération. Nous admirons en eux cette prédilection du sort qui les a sauvés de la main du temps. Ils nous semblent privilégiés. Le fait seul de leur conservation les rend pour nous des objets merveilleux. L'imagination rassemble facilement sur eux un nombre infini de rapports qui nous transportent presque en réalité à l'époque reculée qui les vit naître. Ce n'est point tout à fait une illusion de l'esprit. Il y a du vrai dans ce rapprochement. Mes yeux voient ce qui fut vu par Périclès, par Platon, par César. Horace et Virgile passèrent devant ces colonnes que j'admire. Nous avons donc admiré les mêmes objets, touché les mêmes beautés. Voilà un point où nous nous sommes rencontrés. Cette drachme, ce cadran, ont passé par les mains de ces personnages que nous sommes habitués à ne voir qu'en songe. Je possède donc ce qu'ils ont possédé. C'est une sorte de communauté qui s'établit entre nous et nous rend un moment contemporains et compatriotes. Ce charme de la vétusté tient donc à la certitude, mais aussi à l'apparence de la vétusté. Voilà pourquoi il est si précieux aux yeux de l'amateur, ce vernis du temps, que l'on cherche si souvent à contrefaire. Redonner à ces restes mutilés une menteuse intégrité, effacer et faire disparaître des ouvrages antiques l'empreinte de l'Antiquité, et leur redonner un faux air de jeunesse, c'est leur enlever en partie leur valeur et leur beauté, et cette espèce d'inviolabilité qui les défendait des attaques de l'esprit de critique.
Philippe Joquet, on entend ici un texte de Quatre Mères de Quincy que vous proposez à la lecture. Il utilise les mots de menteuse intégrité, de donner des faux airs de jeunesse. Puisqu'on va entrer là maintenant dans le moment de cette discussion où on va évoquer ces fameuses nouvelles technologies et l'usage de ces nouvelles technologies qui pourraient donner de menteuses intégrité ou des faux airs de jeunesse aux objets que vous étudiez. Alors pourquoi nous proposer un texte qui va presque à l'encontre du travail que vous effectuez ?
Il est vrai que j'ai une affection particulière pour Quatre Mères de Quincy, pour la modernité de son propos. C'est l'un des premiers à reconnaître, justement, à affirmer sur la foi de l'étude des textes que la statuaire grecque et romaine était polychromée dorée. Et en même temps, il nous dit, au moment même où les grandes collections de sculptures se constituent, il nous dit « stop, ne faisons pas comme cela, replaçons les statues dans leur contexte, laissons à leurs monuments leur intégrité, et c'est ainsi que nous pourrons retrouver ce sentiment du beau que nous perdons lorsque nous arrachons finalement à leur contexte originel ces statues. » Donc j'avais trouvé cette démarche très intéressante. Et en même temps, il nous dit « attention, n'allez pas trop loin, laissez justement le charme de cette ancienneté, de cette vétusté, qui est un terme plus joli finalement que l'ancienneté, à cette statuaire, car c'est elle qui nous permet d'entretenir une relation privilégiée. Paradoxalement, plus l'on restitue, plus on s'éloigne du passé. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant à creuser, à explorer pour nous, à un moment où les nouvelles technologies nous permettent effectivement de tout reconstituer, de tout compléter. Mais d'après Quatre Mères, en faisant ainsi, on s'éloignerait, on manquerait notre objet. Et il m'a semblé que c'était un moment où on peut tout faire du point de vue technique, technologique. Il était important de convoquer Quatre Mères pour que nous réfléchissions justement sur cet enjeu.
Ce vernis du passé qui lui semble finalement être l'une des meilleures façons de créer une contemporanéité avec une communauté, celle de César, mes yeux voient ce qui fut vu par les autres, ce qui est très intéressant et en même temps extrêmement émouvant quand on pense au métier d'archéologue et d'historien de la civilisation grecque. En même temps, c'est vrai que ces nouvelles technologies vous permettent, vous aussi d'une certaine manière, de vous mettre dans cette communauté en voyant peut-être encore plus ce qui fut vu par César et compagnie, peut-être pour rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que vous permettent les nouvelles technologies concrètement? Par exemple, un temple en ruine, est-ce que vous pouvez le voir autrement qu'en ruine?
Alors, les nouvelles technologies aujourd'hui peuvent tout. On peut partir de ce principe. Un temple en ruine, nous avons les moyens, les dispositifs pour le reconstruire, pour faire son anastylose, comme on dit, le reconstruire totalement. Après, il faut savoir quel contenu on met à ces reconstitutions, à ces reconstructions. Ceci doit partir d'une analyse très précise de la documentation archéologique. Après, effectivement, la reconstruction va presque de soi, mais pour quelle finalité, hein ? Aujourd'hui, nous sommes à croiser des chemins, là encore, dans ce domaine, dans la mesure où, dans les restitutions 3D, nous nourrissons chacun de nos discours, le modélisateur, l'historien, l'archéologue, des progrès scientifiques de l'autre. Et cette interdisciplinarité est très importante pour nous, et elle est l'enjeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de produire à tout prix une image de temple, une image de sculpture, de groupe reconstitué. Il faut voir comment chacun de nous peut attendre de l'autre et espérer de l'autre un enrichissement de sa propre culture scientifique. Et il me semble que dans les programmes actuels, c'est ça qui est en jeu. Donc, j'allais dire restituer le Parthénon, pourquoi pas, mais ça n'a de sens que si finalement nous arrivons, en cherchant à le restituer, à produire un état de savoir supérieur, en quelque sorte, hein, et qui ne soit pas simplement une belle image pour les musées, pour les télévisions ou je ne sais quoi encore.
C'est précisément dans cette direction, quand vous dites les nouvelles technologies peuvent tout, c'est le champ de la 3D, c'est le champ de la modélisation et de la production d'images, par exemple de temples reconstitués, qui est l'un des champs les plus explorés aujourd'hui ?
Oui, alors c'est l'un des champs les plus explorés. S'y ajoute maintenant un enjeu capital aussi, qui est tout ce qui relève de ce qu'on appelle la réalité augmentée, c'est-à-dire de quel savoir va-t-on investir ces images qui en elles-mêmes ne parlent pas. Paradoxalement, là aussi, plus vous les montrez achevées, moins elles parlent.
Plus elles sont muettes.
Plus elles sont muettes. Et pour les refaire parler, c'est de nouveau un dialogue entre l'archéologue et le modélisateur, pour résumer les choses très, très brièvement. Et ce dialogue, c'est de ce dialogue que va dépendre la qualité du discours porté par une image 3D. L'image 3D n'est pas une fin en soi. Elle est une médiation possible pour porter un discours qui, parfois, n'a pas besoin de l'image 3D. Hein. Donc, là encore, ne cédons pas trop à la fascination. Comme vous le disiez, une image parfaite est une image muette, en quelque sorte, si elle n'est pas surinvestie de quelque chose d'autre.
Et justement, comment l'investissez-vous? Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire, si on pense à ce que permet, de manière beaucoup plus pragmatique, l'image 3D, c'est-à-dire une circulation, par exemple, dans l'espace, une possibilité de visualiser des angles nouveaux que ne permet pas une image à plat? Dans quelle manière est-ce que ça vous permet, vous, d'avancer un peu plus loin que si vous n'avez que devant les yeux, pour être très simple, un dessin, par exemple?
Alors, je vais prendre l'exemple concret de ce sur quoi je travaille. Travaillant sur la polychromie, je me suis beaucoup interrogé sur la recontextualisation de ces sculptures peintes, dorées, replacées dans leur contexte originel, niche, temple, trésor, ce que vous voulez, et qui obéissaient, cette polychromie obéissait à des lois qui étaient des lois certainement esthétiques, mais aussi des contraintes qui étaient des contraintes matérielles liées à l'endroit où elles étaient, à des demandes très précises du commanditaire, qui fait que la 3D permet ici, si on arrive à reconstituer le contexte originel de l'objet dans lequel que l'on replace au cœur de ce contexte, justement, va permettre d'évaluer de mettre en place un certain nombre de méthodes pour essayer de mieux comprendre comment ces couleurs étaient appliquées, portées, exprimaient quelque chose en fonction des éclairages. Et c'est là que, là, notamment, en fonction des heures de la journée, en fonction de l'ouverture ou non de la situation dans l'espace de ces objets. Autrement dit, autant d'éléments que l'on va pouvoir modéliser, regarder sur un écran, analyser et se dire en retour, voilà, là, il est vraisemblable que, compte tenu de ce contexte très particulier d'éclairage, de vue, de hauteur de vue, justement, d'appréhension, eh bien, il est vraisemblable que cette sculpture, à un moment donné, apparaissait comme cela à César ou je ne sais qui, Périclès ou Phidias. Et par conséquent, c'est ça que l'on cherche à faire avec la 3D. C'est ça qu'elle permet.
C'est-à-dire qu'il y a des animateurs qui travaillent avec vous. Quand on prend un modèle 3D, un lieu 3D, vous pouvez, je ne sais pas, générer des lumières du jour très différentes, observer la différence sur la couleur en question.
Ce que permet le modèle 3D, alors, comme vous le dites, il faut absolument que nous soyons toujours ensemble. On ne peut plus travailler chacun de notre côté. Et il faut que nous soyons...
Comment ? Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle, absolument, excellente nouvelle. Et donc, lorsque nous sommes côte à côte face à un écran, moi je peux dire aux spécialistes de l'image 3D, là, il faudrait pouvoir faire varier l'éclairage sur cette statue, sur ce point de vue, de manière à mieux comprendre comment elle s'inscrivait dans l'espace, de manière à mieux comprendre la perception que pouvaient en avoir justement les gens qui passaient devant, qui la voyaient. Et c'est comme ça qu'on travaille maintenant. C'est très important. Et de la part des modélisateurs 3D, il y a une forte attente aussi, dans la mesure où, pour eux, il est souhaitable d'avoir des informations nouvelles, des questions nouvelles, des questionnements nouveaux. Et ces questions de position dans l'espace, de situation, de travail sur des surfaces extrêmement complexes, en définitive, avec des reliefs compliqués, des ombres, des lumières, des jeux de couleurs estompées, plus ou moins nuancées.
Et des matières qui, probablement, ne sont plus modélisées par eux, dans la mesure où on cherche généralement à représenter en 3D des matières qui nous sont contemporaines. Là, ça leur demande d'aller beaucoup plus loin dans la représentation.
Exactement.
De matières qui sont plus...
Exactement.
Utiliser.
C'est l'un des enjeux aussi, hein. Effectivement, c'est de retrouver ces textures. Il y a un gros travail en ce moment du côté des 3D, si je puis dire, pour essayer justement par des techniques photographiques sophistiquées de replaquer les bonnes textures sur les bons modèles. Mais l'enjeu archéologique, il est très fort là. Et c'est pour ça que nous avons besoin les uns des autres aussi, hein, parce que la bonne texture, elle passe aussi par l'analyse préalable de sa composition, la restitution sous forme expérimentale de sa superposition, de son application. Ça, c'est ce que nous faisons justement.
Donc là, ça repasse au labo plutôt.
Ça passe au labo. Et le labo, il est à l'entrée et à la sortie, si je puis dire. Il analyse la composition de la couche picturale. Il propose sous forme expérimentale des restitutions. Et c'est sur la base de ces reproductions que nous pouvons ensuite proposer aux modélisateurs 3D de numériser, de photographier en quelque sorte cela, et de replaquer sur la statue. Vous voyez, donc c'est un va-et-vient constant, en réalité, de plusieurs disciplines qui sont justement à la croisée de cette recherche.
Ces fragments, on les a numérisés très rapidement. Donc on est arrivé à numériser chaque fragment en à peu près 4 minutes de prise de vue. Alors, ce sont 4 minutes où on arrive à acquérir jusqu'à 200 ou 250 images, hein, de l'objet, des images à partir desquelles ensuite on extrait finalement toute la géométrie et toute la texture avec une précision qui est inférieure au dixième de millimètre, qui permet quelque part d'acquérir dans des campagnes de relevé des grandes collections de formes 3D qui sont ensuite traitées d'un point de vue informatique, et qui deviennent quelque part une sorte de base de données qui contient des millions de coordonnées par objet, des coordonnées tridimensionnelles qui sont étudiées, qui sont analysées par des algorithmes qui nous permettent d'extraire des formes caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de voir dans ces millions de coordonnées 3D ? On essaie, par exemple, de retrouver des traces d'outils. On essaie de retrouver des caractères similaires. Ces genres d'approches, il faut imaginer, peuvent assister le travail de l'archéologue, l'enquête de l'archéologue, dans la mesure où les machines et ces algorithmes, finalement, d'analyse des similarités morphologiques, permettent de créer des associations entre des grandes quantités de données.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
Philippe Jocquet, on entend ici une tentative de traduction de la musique antique grecque, figurez-vous. Donc c'est ce qui se passe côté musical et qui correspondrait au travail que vous faites. Travail que vous faites notamment avec Livio De Luca, qu'on entendait à l'instant, qui est directeur de recherche au CNRS, qui dirige le labo MAP, Modèles et Simulations Architecture et Patrimoine, à Marseille, avec qui s'est entretenu ce matin Romain de Becdelièvre, et qui travaille avec vous sur un projet très particulier, lequel dont il parle à l'instant.
Alors, le projet s'appelle Eloquentior et il vise notamment à étudier ce dont parlait Livio à l'instant, c'est-à-dire les centaines de fragments sculptés qui composaient le décor de la fameuse Tholos de Delphes, qui était l'un des monuments les plus célèbres dans l'Antiquité. Et si vous êtes déjà venu à Delphes, vous avez naturellement le sanctuaire d'Apollon. Puis en contrebas, vous avez cet élégant monument dont trois colonnes ont été remontées en 1938 et dont nous proposons, justement, nous allons proposer une anastylose numérique.
Ça veut dire quoi, une anastylose?
Alors, anastylose, c'est un terme qui fait très grec, en fait, qui a été inventé dans les années 30, et qui marque le début de cette grande entreprise de reconstruction de l'Acropole et du Parthénon, notamment, qui veut dire littéralement redresser une colonne sur sa base. Alors, depuis, c'est devenu un terme qui paraît très ancien dans sa tonalité. Et en réalité, c'est le point de départ d'une relation au monument passé, et grec en particulier, d'où le mot grec, de manière à le reconstruire selon des techniques qui étaient des techniques de la construction de l'époque, et notamment dans le cas de la Tholos, en 1938, les colonnes que l'on voit aujourd'hui au sanctuaire de Delphes ont été reconstruites à ce moment-là. Mais à cette anastylose succède aujourd'hui donc une anastylose numérique. L'intérêt du programme sur lequel nous travaillons, Livio De Luca, Marc Daniel, qui est un mathématicien avec lequel d'Aix-Marseille Université, et moi-même, c'est que nous allons essayer de produire un langage commun à partir de l'étude. Certes, il va falloir remonter cette Tholos et son décor sculpté, mais il s'agit surtout de réfléchir à un langage qui croise les équations du mathématicien, les nuages de points de l'informaticien et le beau discours, entre guillemets, de l'archéologue, le récit. Et je crois que c'est l'enjeu ici. Et nous avons, pour ce faire, choisi un monument extrêmement difficile, puisque son décor sculpté est dispersé en des centaines et centaines de fragments qui ont été soigneusement débités depuis l'Antiquité. Et l'enjeu est énorme ici. Mais c'est pour ça que nous l'avons choisi aussi. Alors, heureusement, l'École française d'Athènes nous a permis, nous offre la possibilité, puisque c'est elle qui a la responsabilité de la fouille de ce site de Delphes, en tout cas des monuments qu'elle a extraits au début du siècle dernier, nous a donné la possibilité de travailler à cette tâche, qui est une tâche inédite pour nous.
Pour revenir à l'anastylose numérique, ça va jusqu'à l'impression 3D, à la fabrication 3D d'éléments qui manquent à la reconstitution de ce décor?
Alors, il ne manque pas à la reconstitution, puisqu'on ne peut imprimer en 3D que ce qui a été numérisé, donc qui existe. En revanche, effectivement, on peut recomposer, réunir, rassembler des éléments qui sont dispersés. Mais l'impression 3D, là encore, n'est pas une fin en soi. Elle est très commode. Évidemment, on peut repartir avec une impression 3D d'un fragment sculpté chez soi en France pour mieux l'étudier. En revanche, elle est un outil aussi pédagogique. Sa valeur heuristique, en revanche, est peut-être plus discutable. Après tout, ça n'est jamais qu'un moyen très brillant de faire un moulage. Donc la question qui s'oppose avec l'impression 3D, c'est la même que pour n'importe quel moulage en plâtre du 19e siècle. Hein. Donc, mais c'est un outil intéressant, effectivement.
Quand vous parlez de la grandeur de ce projet-là et aussi de sa difficulté, quelle est votre méthode pour progresser vers un langage commun? Il faut peut-être aussi avancer de manière concomitante, si ce n'est de manière complètement ensemble. Vous parlez des mathématiques, de l'informatique et de l'archéologie. Comment ça avance, à quel rythme et avec quel genre de dialogue?
Alors, très concrètement, ça a commencé ensemble autour d'une table, tous les trois, avec un objet à décrire, chacun selon nos propres langages. Et pour arriver à une éloquence plus forte, c'est pour ça qu'on avait utilisé le mot eloquentior, hein, il a fallu commencer à réfléchir au descripteur, à la façon dont nous voyons chacun de nous cet objet. Le mathématicien était intéressé par les courbures discrètes qui animent ces objets. Livio, lui, est évidemment engagé dans le souci d'une modélisation parfaite. Et moi, j'avais avait le souci qu'on ne perde jamais de vue l'histoire de l'objet. Parce que le danger est là aussi. Il faut que ces objets, même s'ils sont transcrits en 3D, colorés, animés dans l'espace, il faut leur attacher l'histoire à chaque fois. Ce sont des porteurs d'un message historique. Il ne faut pas le perdre dans une sorte de fascination 3D qui serait là pour le coup un leurre.
Donc vous vous nourrissez. On va décrire la façon dont petit à petit l'informatique va lire cet objet et produire un langage à propos de lui, dont la mathématique va pouvoir reproduire dans une formule, une équation, une courbure qui fait que ça épouse le monument où il y a un virage dans la frise. Et vous, vous allez dire, n'oublions pas que cette frise, elle est peinte pour raconter telle ou telle chose voilà. Et rendre grâce à tel dieu.
Rendre grâce à tel dieu, c'est un geste qu'il a porté. Ce geste, il était dépendant d'une culture technique, de certains outils, de certaines façons, de certains rapports à l'outil, aux matériaux, à la matière, au type de marbre. Tout ça est très important. Et c'est pour ça que ça n'est qu'en battant ensemble tous ces éléments qu'on peut arriver, je l'espère, et je l'espère dans les deux ou trois années à venir, à un premier résultat sur cet objet, évidemment, qui est un objet exceptionnel, dont certains disent qu'il aurait pu être au titre des merveilles du monde dans l'Antiquité. Bon, mais vous voyez, donc c'est comme ça réellement que nous essayons de travailler.
Quand on entend Livio De Luca parler d'une collaboration, en effet, très très concrète, et quand on vous entend parler de trois personnes autour d'une table, on a même envie que cette collaboration soit totalement internationale. La collecte de millions de données numériques, de millions de nuages de points 3D pouvant reconstituer, c'est aussi une possibilité de faire circuler de la connaissance à une vitesse qui n'a jamais été égalée dans la pratique de l'archéologie jusqu'à maintenant.
Tout à fait. Alors ça, c'est un point très important. La circulation internationale de l'information scientifique, nos domaines la connaissent aujourd'hui de manière impérative. Donc là, de ce point de vue-là, c'est vrai que nous sommes trois Français avec nos origines diverses, mais nous travaillons en Grèce avec des collègues grecs, naturellement. Nous travaillons avec des Italiens spécialisés aussi dans la modélisation. Donc c'est un dialogue qui se fait, là aussi, il est polyglotte en quelque sorte, hein. Et c'est ça qui fait l'intérêt. Et effectivement, ce que nous espérons, et les grands colloques organisés autour de la question de la numérisation le prouvent, ce que nous espérons, c'est mettre en commun justement ces millions de données pour arriver notamment à constituer des bases de données référentielles qui nous permettent d'avancer. Ça, c'est un autre enjeu. C'est le devenir sur le web de toute cette information collectée et qui n'a de sens que si elle est remise en réseau et qu'on peut l'interroger à des niveaux divers. Et là aussi, c'est un enjeu très important, qui n'est pas résolu.
Presque comme une banque de données. On imagine que la capacité des outils numériques qui sont à votre portée sur des chantiers, en pleine fouille, pourrait vous permettre, je sais pas, je parle pas forcément de quelque chose que je connais, mais très très vite sur un iPad ou sur n'importe quel ordinateur, de mettre en relation quelque chose, un fragment que vous trouvez, selon voilà. Une courbure, selon un dessin ou une trace d'outil, avec des choses qui ont été trouvées dans d'autres fouilles à d'autres moments. C'est vraiment à ça qu'on tend.
C'est à cela qu'on arrive. J'allais dire, on y est dès lors qu'on met du contenu. Il est possible maintenant avec une tablette ou avec un smartphone de s'approcher d'un objet, de le scanner ou de le photographier enfin rapidement et en relation avec une base de données l'objet on le fait parler. On peut le mettre en relation avec d'autres. Vous prenez un exemple d'une frise, je prends l'exemple d'une Amazone. Vous prenez, puisque j'en ai à la Tholos de Delphes, un fragment de sculpture d'Amazone. Vous la reconnaissez, vous avez immédiatement l'ensemble des informations sur ce qu'elle est, ce qu'est une Amazone, etc. Et vous pouvez le mettre en série avec toutes les Amazones, enfin, le cas idéal, avec toutes les Amazones qu'aurait produites le monde antique, dans un cas de figure idéal. On est en train de construire ça, les moyens techniques sont là. On les a, le MAP y travaille, un certain nombre de laboratoires de modélisation y travaillent. Le MAP, de ce point de vue-là, il travaille, j'allais dire, presque mieux que les autres, en tout cas, est en avance. Et c'est ça l'intérêt pour nous, hein, de justement constituer ces référentiels, ces outils qui vont permettre une réalité augmentée, mais augmentée justement d'un savoir historique.
Avec une philosophie qui toucherait à celle de l'open source, vous êtes plutôt dans une idée d'une liberté d'accès à ces données ?
Tout à fait. Ça, je crois que c'est fondamental pour nous, ne serait-ce que parce que nous devons rendre cela à nos publics, dans la mesure où nous avons été financés par l'État pour le faire. Et je crois que cette exigence de l'open source est le seul moyen, d'ailleurs, de faire circuler convenablement l'information entre chercheurs. Et nous y sommes très attachés, je sais, les uns et les autres.
What does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral. What does the Taj Mahal mean to India? What do the paintings in the Sistine Chapel mean to Italy? The Parthenon marbles are our pride. They are our identity. They are today's link with Greek excellence. They are creations synonymous with our concepts of democracy and freedom.
Philippe Jocquet, c'est la voix de Mélina Mercouri qu'on entend là, actrice, chanteuse, femme politique grecque, qui parle du symbole que représente Shakespeare pour l'Angleterre et puis du symbole que représente le Parthénon pour la Grèce. Évidemment, les enjeux politiques du symbole de démocratie, de liberté, les enjeux politiques, y compris les enjeux politiques à la circulation de ce mythe d'une Grèce blanche antique, vous les développez dans votre livre. Quels sont les enjeux politiques qu'il y a aux différents chantiers que vous avez évoqués là ?
Les enjeux politiques, je crois, c'est de sauter définitivement de l'esprit le fait que les Grecs seraient très différents de ce qu'était le bassin méditerranéen oriental à l'époque où l'apogée, ce qu'on appelle l'apogée, le siècle de Périclès notamment, s'est développé. Et reconnaître aux Grecs une forme d'altérité, une forme de proximité avec ce que nous avons nous posé comme autre. Et je crois que c'est important, l'étude de la couleur, l'étude de la restitution des couleurs et de la dorure montre que les Grecs faisaient couleur, polychromie et dorure partagée avec bien d'autres peuples de la Méditerranée orientale voire occidentale, et que par conséquent, ce mythe de la Grèce blanche, il faut le déconstruire dans la mesure où c'est une construction idéologique qui prend ses racines très tôt, hein, à la faveur d'accidents de l'histoire, à la faveur de cet effacement progressif des couleurs, faute...
À la faveur de la chimie.
À la faveur de la chimie. Alors, de justement, la à la faveur de la chimie. Absolument. Alors, je tenais aussi à faire parler Mélina Mercouri, plus grec que grec. On n'a pas beaucoup parlé ces jours-ci, pourtant elle portait elle-même cette idée nationale grecque peut-être plus que tout autre, pour montrer aussi que dans le cas du Parthénon, on a les limites de ce que la restitution 3D peut faire. Aucune image virtuelle du Parthénon, si colorée fut-elle, si dorée fut-elle, n'effacera dans l'esprit des Grecs aujourd'hui ce Parthénon blanc, qu'ils reconstruisent toujours plus blanc. Ça a commencé dans les années 1930 avec Nicolas Balanos. Aujourd'hui encore, le Parthénon et les monuments d'Acropole ne sont pas terminés. Ils sont plus blancs que blancs. Et par conséquent, ils posent l'inachèvement antique comme une finalité en soi. Donc c'est une erreur historique, en même temps investie d'une telle charge symbolique que, évidemment, on ne peut pas ne pas y faire allusion.
Mais c'est qu'avec le temps, ce blanc recouvre autre chose. Ce blanc devient le blanc de la pureté, devient le blanc du neuf, devient le blanc de l'excellence. Et c'est peut-être ce blanc-là qu'on cherche à chaque fois à atteindre depuis 1930.
Même depuis un siècle plus tôt, si je puis dire, parce que dès la Révolution grecque, dès l'indépendance grecque, la Grèce moderne se construit en effaçant toutes les couleurs, tous les apports étrangers. Et ça, ce sont les nations européennes qui accompagnent l'indépendance de la Grèce qui le font très clairement. On élimine tout ce qui n'est pas réputé grec, donc blanc.
C'est bien que des recherches comme les vôtres, dont vous dites qu'elles sont partagées par des chercheurs grecs, évidemment, puisque vous travaillez sur le sol grec, comment sont-elles accueillies là-bas ?
Écoutez, on n'a jamais rencontré aucun obstacle d'aucune sorte à nos demandes de prélèvement, d'analyse, de présence sur place. Ça s'est toujours parfaitement passé jusqu'à maintenant. Moi, j'ai beaucoup travaillé à Délos dans les Cyclades. Je travaille à Delphes sans aucune difficulté. Au contraire, il y a une bienveillance. Le problème ne se pose pas là, en réalité. Nos collègues archéologues ont bien conscience aussi de cette réalité matérielle.
Et de l'évidence scientifique.
De l'évidence scientifique. C'est après, évidemment, dans l'exploitation de cette image nouvelle, que les problèmes pourraient se poser. Mais nous avons le projet, avec le musée archéologique de Delphes et l'école française d'Athènes, de mettre en place, justement, une réalité augmentée associée à un monument de Delphes qui était le trésor des Marseillais pour lequel nous avons réalisé une exposition en 2013 au moment de Marseille, capitale européenne de la culture. Et ce sera l'occasion justement avec la conservatrice du musée de Delphes, avec les différents partenaires, eh bien, de voir jusqu'où on peut aller. Il y a une demande. Donc une demande positive, y compris pour replacer les couleurs de ces sculptures du trésor des Marseillais. Par conséquent, ça bouge de ce point de vue-là. Mais le Parthénon restera une icône blanche, je crois, jusqu'à la fin des temps.
Et ça bouge y compris dans le discours qu'on peut avoir,
oui.
Que vous développez d'une manière, là pour le coup, très, très politique et très, très... Vous allez jusqu'à de l'idée, finalement, dans le mythe de la Grèce blanche. Vous portez à un endroit très politique le fait qu'on ait maintenu très longtemps ce mythe-là.
Oui. Alors, je veux dire que le nouveau musée de l'Acropole, qui a été inauguré en 2009, synthétise bien tout cela. Au rez-de-chaussée, vous avez les chorées, les fameuses chorées, les fameuses jeunes filles peintes polychromes qui ont suscité l'horreur chez Maurras, qui traverse les salles du musée de l'Acropole en courant, en disant « ôtez-moi de là, c'est chinoise ». Et donc, dans lesquelles on restitue, auxquelles on restitue maintenant leur polychromie, les Grecs ont le souci de restituer cette polychromie grâce à des applications de type smartphone. Donc, si vous allez au nouveau musée de l'Acropole, vous avez la possibilité maintenant d'associer à chacune de ces statues féminines la restitution de ces couleurs, le discours. Enfin, il y a eu un véritable progrès. Mais ceci reste, j'allais dire, le VIe siècle avant, féminin, coloré.
C'est ce que j'allais dire, puis c'est des femmes.
Sont des femmes. Et ça, vous passez à l'étage supérieur, c'est l'étage du Parthénon. Et l'étage du Parthénon, lui, au contraire, met en scène une immense blancheur, qui fait écho d'ailleurs à celle de l'Acropole en face, puisque le musée est magnifiquement situé en face de l'Acropole. Il faut absolument le visiter, ne serait-ce que pour cela. Et on voit bien qu'il y a un dialogue constant entre la blancheur des monuments de l'Acropole existants, celle de la frise du Parthénon, qui reste aujourd'hui encore avec ses moulages, ses vides, et puis les quelques éléments qui sont conservés, qui est en attente d'une restitution, évidemment, de ces éléments.
Donc encore un petit peu de chemin.
Encore un peu de chemin, certainement, oui.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richu.
Et hop, l'air de rien, il est 16h47 sur France Culture. À cette heure-ci, chaque jour, pour la rubrique Au singulier, nous demandons à quelqu'un de nous raconter un moment marqué par une émotion forte. Décrire ces instants de bascule est un exercice pas facile, que chacun conjugue à sa manière. Cette semaine, c'est la chef d'orchestre Zaya Ziou Ani qui se prête à ce jeu. Elle dirige l'ensemble musical Divertimento et aujourd'hui, elle évoque la création d'un spectacle autour de la vie et de la musique de Mozart. C'était il y a quelques années, création qui l'a conforta dans son idée de porter la musique classique partout et pour les oreilles de qui veut.
La création du spectacle « Était une fois Mozart », pour moi, ça a été un moment vraiment très marquant dans mon investissement dans la musique et notamment en banlieue. Ça fait partie peut-être de ces temps forts qui m'ont encouragé à continuer dans le sens justement d'accès à la musique pour tous, de s'investir sur les territoires. C'est vrai que quand on est chef d'orchestre, on peut être un peu aveuglé par la magie d'être sur les grandes scènes en face d'orchestres professionnels. Voilà, d'avoir son chauffeur qui vient nous chercher, d'être dans des belles loges avec plein de choses à manger dedans et autres. Et c'est vrai que tous ces beaux moments-là, moi aussi, je les vis en tant que chef d'orchestre. Et c'est important aussi parce que l'art doit pouvoir se vivre partout. Mais à un moment donné, voilà, quand j'ai commencé à m'investir à la tête de l'orchestre Divertimento, et puis je m'étais dit que c'était important de garder toujours ce lien avec la transmission pédagogique. Et donc, cet investissement pédagogique que j'ai eu dans les conservatoires, dans un premier temps en tant qu'enseignante, j'ai voulu le poursuivre un peu plus loin. Et voilà, j'ai passé des diplômes pour être directeur de conservatoire. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion justement d'avoir la direction du conservatoire de la ville de Stein, donc en Seine-Saint-Denis. Et ça a été un moment où... moi qui étais convaincue de l'importance des pratiques collectives, parce qu'à la fois pour leur valeur artistique, pour que les enfants et les jeunes puissent s'investir dans un orchestre, puis voilà, être dans un groupe, monter des spectacles ensemble, connaître l'émulation qu'on peut justement avoir tous ensemble, et puis aussi pour les vertus éducatives qu'on peut transmettre justement sur la notion de vivre ensemble, de placer l'intérêt collectif avant son intérêt individuel. C'est vrai qu'on est dans une société où assez individualiste, donc je trouvais ça important qu'il y ait des moments comme ça dans les vies de certains jeunes où on rappelle l'importance du collectif. Donc quand j'ai eu l'occasion d'avoir la direction du conservatoire de Stein, le maire de Stein m'a dit « Mais votre projet pédagogique, il est très intéressant autour des pratiques d'orchestre et peut-être ce serait intéressant que le public puisse voir aussi, dans le cadre de la saison culturelle, des orchestres se produire. Et comme vous en dirigez un vous-même, peut-être ce serait intéressant que nous, à Stein, on puisse l'accueillir en résidence. » Donc c'est comme ça que l'Orchestre Divertimento est arrivé en résidence à Stein, puis a participé à la vie culturelle de cette ville-là, et puis évidemment du département, et plus largement encore. Et que moi, la tête aussi du conservatoire, j'essayais de faire en sorte que simplement que les habitants et les jeunes ne soient pas que en situation de spectateur, mais de les amener aussi à pratiquer la musique et à les inscrire dans une pratique culturelle beaucoup plus riche et plus régulière. Et donc, j'avais mon activité qui était articulée entre la direction d'orchestre et la direction de conservatoire. Et je trouvais que cet équilibre, il était intéressant parce que c'est bien de jouer et puis c'est bien aussi de transmettre. Et en 2006, c'était l'année Mozart et tout le monde faisait des concerts autour de Mozart. Et je me disais, ce serait peut-être bien de voir quelle idée nouvelle on pourrait apporter. Puis surtout, Mozart, tout le monde connaît le nom, mais est-ce qu'on connaît vraiment bien qui il était? Et pour beaucoup de populations, surtout qu'en Seine-Saint-Denis, il y a énormément de personnes qui sont issues de l'immigration. Donc Mozart, c'est une figure importante de la culture européenne, mais peut-être moins si on est tamoul, sri-lankais, chinois ou d'Afrique du Nord. Donc je m'étais dit que ce serait peut-être bien de mieux le faire connaître. Et donc j'ai conçu un spectacle qui permettait de connaître la vie de Mozart avec plusieurs tableaux musicaux, avec des comédiens, avec des danseurs aussi. Et je me dis, ce serait peut-être bien d'utiliser les forces vives de cette ville, donc à la fois qu'elles soient professionnelles ou amateurs. Donc évidemment, l'Orchestre Divertimento avait une place importante, mais les jeunes musiciens du conservatoire également, il y a les jeunes danseurs classiques, une compagnie de danse hip-hop aussi très investie, des danseurs contemporains, des personnes âgées aussi qui venaient apprendre à chanter toutes les semaines. Et je me suis dit, peut-être il y a quelque chose à faire tous ensemble. Et la musique classique de Mozart, elle est hyper exigeante. Donc on va comme ça couper court peut-être à ceux qui pourraient penser que c'est un travail un peu démagogique en se disant, ils font de la musique, c'est déjà bien, mais sans exigence derrière. Avec la musique de Mozart, on ne peut absolument pas tricher. Donc j'ai écrit un spectacle qui s'appelait « Il était une fois Mozart », qui racontait de la vie de Mozart, justement, avec un comédien. Et puis, avec certains artistes, on a travaillé quelques semaines. Avec d'autres musiciens, on a travaillé pendant un an et demi, voire même deux ans, parce que les amateurs avaient besoin de plus de temps. Et on avait des beaux tableaux sur scène avec des jeunes, avec des personnes âgées, avec des danseurs hip-hop, des chanteurs d'opéra, des danseurs classiques, des musiciens classiques. Et toute cette préparation, elle a été très riche d'un point de vue humain, d'un point de vue musical. Et le résultat final, de voir sur scène des gens très différents, les danseurs de rap discutaient avec les chanteurs d'opéra, les jeunes musiciens discutaient avec les personnes âgées de la ville de Stein. Enfin, j'ai trouvé que c'était un moment où l'intergénérationnel et la vie était présent. Et ça m'a vraiment encouragée à continuer dans ce sens en me disant que la musique classique, elle pouvait justement réunir des gens très différents, ou parcours différents, ou cultures différentes, et que c'est au contraire quelque chose qui peut fédérer. Et peut-être aussi couper court à ceux qui pensent que la musique classique, c'est élitiste et ça doit vivre que dans les grandes salles de concert. Et c'est pas forcément que ceux qui fréquentent ces salles de concert qui le pensent, mais parfois plein de gens qui disent « mais la musique classique, c'est pas fait pour moi ». Mais pourquoi c'est pas fait pour vous? Si, c'est fait pour tout le monde. Mais il y a tellement eu parfois aussi des idées reçues qui sont restées en place et des politiques publiques qui ont fait que la musique classique, elle n'a pas été du tout développée dans certains endroits ou certains milieux. Et je me suis dit que cette aventure-là, elle m'a confortée dans le fait que on allait dans le bon sens et qu'il fallait continuer. Et c'est vrai que quand j'ai été nommée à la direction du conservatoire de Stein avec mon orchestre en résidence, je ne savais pas trop combien de temps j'allais rester, si j'allais m'y investir ou pas. Et je me suis dit, après cette belle aventure, même si les réalités elles sont difficiles, c'est vraiment encourageant et c'est vraiment super de se dire que ça a du sens d'être justement là et que Mozart doit être aussi dans ces territoires-là.
ani paliouran nostru. Athena, fotia to ematon bedion sou. Ena fili, tis lefterios fili. Στον ημιτό Ρόδιδη Ανατολή. Αθήνα, σε βάψανε ξανά στο αίμα. Καρδιά μου, δεν πίστεψες ποτέ στο ψέμα. Στο δρόμο Αθήνα, ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. Αθήνα, στις γη στο δαχτυλίδι πέταρα. Καρδιά μου, το κλάμα των μανάδων μέτρα. Σφιγμένα χείλια ο καημός βάρης. Αθήνα τώρα θέλεις και
μπορείς. Philippe Jocquet, ça y est dans toute la splendeur du début des années 70. Ce choix musical avec lequel on termine l'émission Mélina Mercouri, l'association avec Vangelis, pourquoi ?
Oui, comment ne pas rendre hommage à Mélina Mercouri et Vangelis parce qu'il représente cette immense modernité des années 70 en matière musicale. C'est l'un des plus inventifs en matière de création musicale. Et donc l'associer avec Mélina, qui était au contraire, non pas inventive, mais qui représentait la Grèce éternelle, la Grèce blanche, j'ai trouvé qu'il y avait un choc, un télescopage des deux qui était amusant. Et puis il a beaucoup chanté et joué avec Demis Roussos.
Eh bien oui, on lui a rendu hommage évidemment avec Aphrodite's Child qu'on a diffusé. Oui. Lundi, le mythe de la Grèce blanche, histoire d'un rêve occidental aux éditions Belin. On en a un peu parlé, on n'a pas fait toute l'émission là-dessus parce qu'on était sur les temples et les fresques, mais c'est absolument passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et voilà, il va être 17h sur France Culture, mais rien ne s'arrête pour les nouvelles vagues. Vous vous rendez sur franceculture.fr à la rubrique de l'émission et vous pouvez réécouter tous les épisodes dans l'ordre que vous voudrez. Sur ce même site, on met en ligne la bibliographie, les musiques et les liens. On peut aussi s'écrire, tout comme on peut s'écrire et se lire sur Twitter et sur Facebook. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Claire Maillot car ils pensent et préparent cette émission avec moi. Et ils sont tout colorés. Merci à David Jacubovies qui réalise l'émission cette semaine, ainsi qu'à Élise Le qui était aux manettes dans un instant, le 5 à 7.